just kick back, smoke a fat ass joint.
Et bienvenue sur Fréquence Mistral pour notre émission Quartier Libre spéciale Alain Solaire que l'on connaît bien dans le département, mais peut-être pas encore suffisamment, qui n'a pas eu en tout cas une émission d'1h30 rien que pour lui. Voilà, ce musicien hors du commun, on va faire sa connaissance un peu plus sur Fréquence Mistral à Digne, c'est tout de suite. Eh bien bonjour Alain Solaire, ravi de vous avoir dans notre studio à Digne-les-Bains.
Bonjour Odile, bonjour Fréquence Mistral.
Alors, je suis vraiment contente que vous ayez pris le temps de venir, parce que c'est difficile de vous contacter avec ces nombreuses activités musicales et de direction artistique, etc. On va voir un peu votre parcours, puisque ça fait déjà 35 ans de musique.
Un petit peu plus, peut-être 40 ans, depuis mes tendres années.
On dirait pas, mais
on est plus tout jeune.
Oui, si, très jeune, Alain Solaire. La musique, une passion depuis toujours, depuis tout petit?
Depuis l'âge de 6 ans, par le piano, des cours de piano classique. Et puis ensuite, la découverte du rock'n'roll et des notes bleues, on va dire. Et ça m'a bouleversé, quoi. Donc il a fallu que je travaille ça absolument, et évidemment il n'y avait pas de cours là-dessus, donc il a fallu relever sur les disques que j'écoutais à l'époque, et Jerry Lee Lewis et autres fous, dingues du piano rock'n'roll, quoi. C'était super.
Mais alors quand même, il y avait du piano classique au départ, à 6 ans, jusqu'à quel âge le classique alors?
Alors le classique ça durait jusqu'à peut-être l'âge de 12-13 ans, et puis après voilà, je suis passé tout de suite aux choses sérieuses.
Imposé ou un choix tout de suite des parents musiciens?
Oui, mes parents sont instituteurs, et mon père jouait du piano, oui, il jouait du piano, donc j'écoutais Bach, j'écoutais Beethoven, j'écoutais Mozart, et j'avais les disques du grand frère qui étaient là, donc tous ces disques qui partaient d'Elvis Presley, et puis bien sûr les Beatles, les Stones et quelques grosses pointures du rock'n'roll pianistique comme Jerry Lee Lewis, qui a été quand même important pour moi, quoi. Voilà, donc quand j'ai découvert qu'on pouvait faire deux notes en même temps et que ça créait des dissonances que je reconnaissais sur les disques, j'étais heureux et j'ai travaillé ça passionnément, quoi.
Donc le piano jusqu'à 12 ans classique, après le rock'n'roll, c'était plus au piano?
Oui, alors après effectivement... on peut pas transporter un piano partout, donc je me suis mis à la guitare et puis à la basse électrique. Voilà, j'ai toujours été très intéressé par toute forme d'instrument parce que j'ai fait du groupe très très tôt. Et du coup, j'aimais bien comprendre ce qui se passait chez mes copains quand ils jouaient telle ou telle chose à la batterie ou à la basse électrique ou à la guitare. Donc j'ai eu ce besoin d'apprendre toutes sortes d'instruments pour mieux comprendre ce qui se passait chez mes potes, quoi.
Voilà. Donc piano, guitare électrique, batterie.
Basse électrique aussi, que je
pense. Basse électrique.
J'ai tendance à défendre vraiment parce que c'est un très bel instrument qui est très différent de la guitare et qui n'est pas un substitut de contrebasse, qui est vraiment un instrument à part entière, créé par Leo Fender dans les années 40. C'est vraiment quelque chose qui a été fait pour les big bands de jazz d'une certaine époque parce que les volumes sonores étaient tels que la contrebasse ne pouvait pas passer. Donc la basse électrique a vraiment une vraie culture qui dépasse largement l'histoire du rock ou de la pop musique, quoi.
Et la batterie, ça ne s'invente pas non plus. Est-ce qu'il y a d'autres instruments? L'harmonica, c'est possible aussi?
Oui, un petit peu de tout, un petit peu de sax aussi. Ouais.
Bien sûr.
Mais quand on donne des cours d'atelier d'ensemble, il vaut mieux savoir un petit peu jouer de tout pour pouvoir expliquer de façon concrète et rapide et efficace à la personne qui souhaite travailler, quoi. Voilà, c'est toujours plus direct. Et être dans la formulation, c'est bien, c'est aussi quelque chose d'important pour créer des connectiques avec certains esprits qui fonctionnent plutôt sur cet aspect-là de la rationalité. Mais des fois, directement montrer quelque chose par l'exemple, ça marche tout aussi bien et c'est même mieux, quoi.
Alors, cette passion de la musique rock and roll, avec des références, bien sûr, et vous avez enseigné rapidement, vous avez créé un premier groupe. Comment ça s'est passé pour vous dans votre tendre enfance, je veux dire, à partir de 18-20 ans? Est-ce que ça a été tout de suite une profession dans la musique?
Alors, en fait, j'ai toujours, très très tôt, dès l'âge de 14-15 ans, j'ai toujours fait partie de groupes de rock progressif, notamment avec mon grand frère. On ne dira jamais tout le bienfait d'un grand frère qui avait 8 ans de plus que moi et qui donc m'a permis d'écouter déjà les premiers disques un peu transgressifs de l'époque. Je rappelle qu'à l'époque, dans les années 70, le rock était plutôt mal vu, hein, voilà. Et donc j'ai fait mes premières expériences de groupe, mes premières expériences de studio avec mon grand frère, très tôt, 14 ans quoi. Et puis effectivement après j'ai travaillé avec des copains à moi, et puis on a toujours eu ce goût pour se perfectionner, pour progresser, cette curiosité en fait, voilà. Cette curiosité qui nous amène à passer d'un style à un autre style et essayer de comprendre comment on peut travailler sa propre technique pour parvenir à jouer tel ou tel style.
Je reste sans voix. Et la voix dans tout ça, est-ce que la chanson, c'est quelque chose qui vous a intéressé à un moment? Est-ce que ça vous arrive de chanter en même temps que vous jouez?
Oui, oui, je chante. J'ai une très mauvaise voix que j'assume pas du tout, mais je sais chanter, voilà. Et j'ai toujours accompagné des chanteurs, des chanteuses. C'est encore une autre composante. On va dire de cet artisanat, j'ai pas envie de dire métier, mais de cet artisanat du musicien, voilà. L'art d'accompagner le chant, c'est quelque chose qui est particulier et qui demande à la fois beaucoup de sobriété et de compétences pour pouvoir s'effacer derrière le texte, derrière la mélodie. C'est quelque chose de... C'est un savoir-faire particulier.
Est-ce que vous avez enseigné la musique en même temps que vous faisiez les groupes, ou quel a été votre parcours pour arriver à, il y a 26 ans, à devenir directeur artistique et pédagogique?
Alors oui, effectivement, j'ai commencé à donner des cours assez tôt, vers 17-18 ans. J'ai arrêté l'école juste avant le bac. J'avais 17 ans et demi, un bac électrotech qui ne m'intéressait pas beaucoup. Et après, plus tard, j'ai passé un bac littéraire, mais c'est une autre histoire. Mais effectivement, donc pour pouvoir survivre, j'ai donné quelques cours assez rapidement, notamment quand je me suis installé dans les Alpes avec ma femme. Il a fallu que je travaille quoi, pour pouvoir ramener quand même de quoi vivre. Et donc, je me suis intéressé tout de suite à la pédagogie, savoir comment transmettre, en partant de ce que les gens voulaient travailler, à savoir ce qu'ils écoutaient, voilà. S'il y avait des chansons qui leur plaisaient, qui voulaient travailler, je devais m'y coller pour ensuite trouver les rouages pour pouvoir transmettre ces petits prétextes musicaux. Donc tout ça m'a bien formé pour ensuite pouvoir enseigner de façon plus globale, plus générale. Ça m'a pris quand même, 10 ans, 10 bonnes années avant de mettre en œuvre la première structure que j'ai montée, l'atelier de musique improvisée, quoi.
Alors, est-ce qu'on peut déjà faire une petite pause musicale, juste pour être un peu dans le son Alain Solaire? On écoute une
avec
première,
plaisir, oui.
Peut-être, et puis vous nous direz d'où vient cette musique.
Thank you.
Hier, yeah, on a envie de dire. Donc, c'était Alain Solaire qui est mon invité aujourd'hui sur Fréquence Mistral et qui nous faisait, donc, pour illustrer un peu cette émission, part d'une. Donc, c'est issu de Frank Marco, d'un album Monkey Dreams. Je prononce bien.
C'est Monkey Dreams, yes.
Et c'est Frankie's Blues.
C'est ça.
Alors, un peu d'histoire sur cette aventure.
Alors, Frank Marco, c'est un batteur de Maubeuge, près de Lille, qui s'est installé dans notre région des Alpes-de-Haute-Provence il y a quelques années, qui depuis est reparti, qui a beaucoup travaillé sur le secteur d'Oraison avec Jean-Paul Avellaneda, le groupe Merci, qui était vraiment un des batteurs légendaires de ce groupe-là, et que j'ai rencontré moi aussi dans le cadre des ateliers que je dispense à Château-Arnoux. Et une amitié s'est nouée. C'est un immense batteur, il a un son énorme, un groove incroyable. Et donc, on a enregistré ce disque en 2004 avec mon ami Lionel Doenens à la basse électrique, mon grand ami Larry Schneider, le saxophoniste de San Francisco, puis d'autres invités, il y a un contrebassiste, il y a un violoncelliste, il y a aussi un percussionniste, voilà. Et c'est un blues assez simpliste que j'ai écrit pour lui dans le cadre de cet album qui est assez convivial, festif et sympathique.
Alors, merci pour toutes ces explications. Donc, moi, j'ai envie de revenir, donc, bien sûr, à avant, puisqu'il y a beaucoup de... Vous avez sorti beaucoup d'albums, de CD. À quand remonte le premier ?
Alors, le premier CD sous mon nom, qui n'a pas été, lui, distribué, c'est un disque qui s'appelait Initiative, qui date de 1991, qu'on avait fait, en fait, pour voir si le studio... de l'atelier de musique improvisée, le studio d'enregistrement était viable en termes de technique, en termes de matériel et d'équipement, quoi. Ce disque, on l'a diffusé au niveau de la presse spécialisée. On a eu quelques bons échos sur la musique, mais aussi, c'est peut-être ce qui m'a le plus touché, un très bel écho d'un magazine spécialisé dans le son qui nous avait carrément doté d'une récompense sur ce disque-là, d'une récompense technique. Voilà, donc c'est ce qui a permis un petit peu de développer ensuite toutes les productions de ce qui préfigurait le label Durance, qui lui est né en 2005-2006.
Donc Alain Solaire, en 1989, date de la création de l'atelier de musique improvisée à Château-Arnoux.
C'est ça.
Il y a 26 ans, si on revient en arrière, vous aviez quel âge ?
En 89, je devais avoir 25-26 ans. Je suis dans 64. Je suis très mauvais en calcul mental.
Allez, on va dire 25-26 ans, oui. Ce qui est quand même relativement jeune pour prendre une direction pour un si beau projet.
Oui, alors à l'époque, c'était plus intuitif qu'autre chose. On a eu la chance d'avoir l'aval et la confiance du maire de l'époque, José Escanez, à Château-Arnoux, sur un projet bien ficelé qui était effectivement novateur et, comment on peut dire, d'avant-garde, en ce sens qu'il mélangeait un lieu de diffusion, de la formation musicale sur l'enseignement des musiques improvisées et du jazz. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand monde à l'époque qui jouait cette musique-là dans le département. Et un studio d'enregistrement. Donc chaque antenne, si je puis dire, de cette structure, renvoyant l'une avec l'autre, hein, mettant en perspective toutes les possibilités. Les musiciens apprenants, jouant de mieux en mieux, pouvaient s'enregistrer, pouvaient également faire des petits concerts dans notre salle. Voilà, tout ça, c'est ce qui a permis de progresser à vitesse grand V, en se confrontant avec des musiciens que nous invitions, des grands musiciens comme Joe Lovano, ou le premier étant Toots Stillmans, l'harmoniciste incroyable qui a aujourd'hui plus de 95 ans. Donc c'est vraiment suite à une résidence avec cet harmoniciste, Toots, qui a déclenché un peu le processus du projet d'atelier de musique improvisée à Château-Arnoux. Voilà, il y avait vraiment avec toute cette envie de transmettre de façon transgénérationnelle. Voilà, toute ça à l'époque devait avoir 70 balais, un peu moins, 68. Et nous étions très très jeunes et vraiment il nous a donné tout l'amour qu'il avait pour cette musique-là, la musique de jazz, de façon très simple et très fraternelle. Et c'est un petit peu ça qu'on a voulu, avec, parce que je n'étais pas seul hein, dans l'équipe, avec les fondateurs, donc Jean-Paul Carra, Patrice Boulet-Stex, Francis Ricagno à l'époque.
Jean-Paul Carra, instituteur ?
Oui, Jean-Paul Carra, instituteur, chanteur, ouais, ouais. Qui était le premier président de l'atelier de musique improvisée à cette époque-là.
Ah, d'accord.
Et qui était à l'époque adjoint à la culture de la ville de Château-Arnoux.
D'accord.
Voilà, donc on a vraiment essayé de garder cet état d'esprit de transmission générationnelle, transgénérationnelle, et puis avec cette envie de transmettre cette musique-là. Voilà. Et le plus éloigné possible de la partition et de ce qui sépare les gens pour qu'ils puissent jouer ensemble, sans partition, sans mur. Voilà, pour le projet initial, c'était ça. Quoi.
Donc, un projet ambitieux pour votre âge, je trouve, moi quand même. Et puis, vous avez eu des subventions importantes. Vous étiez locataire, vous avez trouvé facilement le local qui vous avez fait donc une salle de spectacle plus une salle d'enregistrement.
Oui, ça s'est fait en plusieurs temps. Effectivement, on a d'abord démarré... alors, on a eu vraiment la confiance de la ville de Château-Arnoux. Qui nous a doté de ces locaux, comment dirais-je, avec un aménagement phonique et acoustique spécial. Ça a pris une petite année de travail. J'ai une petite pensée pour Alain Baudou, qui avait été vraiment le technicien, qui avait vraiment travaillé là-dessus, sur ce projet d'insonorisation acoustique et phonique de ces locaux. Et ensuite, on avait eu une subvention d'équipement. Avec le montage habituel, c'est-à-dire département et région, voilà, qui nous a permis d'acheter les instruments, les batteries, les pianos et les premiers appareils capables d'enregistrer. Donc à l'époque, c'était des studios, qu'on appelle ça, des magnétophones à bande, multipistes. Voilà, il n'y avait pas encore tout le numérique, donc les tout premiers enregistrements ont été faits comme ça. Voilà, ça ne nous rajeunit pas.
Alors, les fameux Revox, là
Alors, c'était si je ne dis pas de bêtises, c'était un tech 16 pistes, je pense, quelque chose comme ça.
Ces grosses bandes magnétiques, là, c'était...
Oui, alors, c'était pas des bandes 1 pouce ou 2 pouces, c'était des bandes 1,5 pouce, c'était déjà pas mal. Mais voilà, on travaillait sur du vieux matériel, puis après, on s'est équipé en numérique lorsque la technologie l'a permis. Et voilà. Et je me rappelle aussi des premiers enregistrements qui ont été faits avec le DAT en stéréo directement. Quoi, voilà.
DAT, c'est ?
Oh là là, je sais pas. C'est un format technologique, d'appareil, quoi, avec des petites cassettes à bande, mais où le signal était numérisé, quoi. Voilà. C'était les toutes premières, les tout premiers essais d'enregistrement ont été faits comme cela, quoi.
Donc vous avez été aussi locataire de ce... Vous êtes toujours locataire
de l'ami ?
Oui, on
est toujours locataire. Voilà. Alors on a toujours tenu à être locataire, à payer un loyer, même s'il est assez dérisoire. Voilà, donc on a un bail qui se reconduit. Et on est très bien dans ces locaux. Les travaux se sont faits en plusieurs tranches. Et notamment, on a eu notre petite salle de diffusion qui a été faite une dizaine d'années après. Voilà. Sur nos fonds propres, cette fois-ci. Voilà, en faisant des concerts, en faisant des activités pédagogiques, on est arrivé à accumuler un petit matelas financier qui nous a permis de pouvoir aménager cette grande salle, relativement grande, quoi.
Alors aujourd'hui, vous êtes combien à vous occuper de l'AMI ?
Alors on est une dizaine, il y a 6 profs qui ont pris le relais, des jeunes d'ailleurs, Benjamin Dauvergne, Vincent Guigaud, Thomas Vérich, Seb Lalisse, j'en oublie quelques-uns là. Et puis il y a des bénévoles qui sont là et qui tiennent le lieu, quoi. Donc Lionel Douénens, qui est le président actuel, qui a été un de mes premiers élèves. Il y a bien sûr Capucine Olivier, qui s'occupe de la gestion aussi de tout ce qui concerne l'administratif. Moi, je supervise en tant que directeur pédagogique les activités. Voilà, quoi. Ça marche bien. Il y a 200 adhérents. Et 300 si on compte vraiment les activités du studio et les stagiaires qui viennent des fois faire des participer à des stages, quoi.
Alors j'ai envie de poser toujours cette question, y a-t-il autant de filles que de garçons dans les adhérents ou c'est plus la gente masculine qui envahissent les studios de l'AMI ?
Alors, c'est une bonne question, parce que maintenant, à l'aune de ce quart de siècle, on a vu vraiment...
Une évolution.
Une évolution, oui, oui. Donc, effectivement, il y a beaucoup plus de femmes qui viennent participer à nos activités pédagogiques ou artistiques. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que c'était une musique plutôt réservée aux hommes, hein, voilà, notamment le jazz, quoi. Et là, ça s'ouvre pas mal. Alors, il n'y a pas la parité, bien évidemment, mais on va dire un tiers, deux tiers. Voilà. Et ça me semble être bien parti pour que ça se démocratise de cette façon-là, quoi.
Donc, du rock, vous êtes passé au jazz ou c'est lié, c'est étroitement lié ?
Alors ça, oui. Moi, je suis de toute façon trop jeune pour le jazz. Mais donc, ma musique, celle qui est concomitante à mon époque, c'est vraiment le rock et la pop musique et la pop anglaise. Avec les Beatles, les Stones, les grands groupes des années 70, les Who, Deep Purple, que sais-je. Et en fait, je suis venu au jazz par curiosité, vers 19 ans, 19-20 ans, et toujours par la rencontre de personnes relais, des passeurs, comme on dit, qui ont su me transmettre cet amour de cette musique-là, qui est une très belle musique. Et voilà, donc j'ai toujours eu cette chance-là de rencontrer... des personnes. Et j'ai eu la chance aussi de faire l'histoire du jazz de façon chronologique. Donc ça, c'est une richesse aussi, parce que c'est une musique qui a un siècle et demi, à peu près, et qui est extrêmement riche de courants divers, et de styles, et d'esthétique. Donc on dit le jazz, mais en fait, on devrait dire des jazz, tellement il y a de choses différentes. Et donc, c'est bien d'avoir pu approcher ça par le blues, le New Orleans, le middle jazz, la période bop, la période hard bop, le free jazz, la fusion, enfin tous ces courants-là qui sont vraiment enracinés dans une tradition, mais en même temps très différents, quoi.
Est-ce qu'on peut être, on peut être initié, moi j'en parle en m'occupant de la radio, à tous ces styles de musique qui, quand on n'est pas habitué, bon, le jazz fusion, ou toutes les musiques qui existent. Quand on dit musique actuelle, ça comprend quoi, ça, est-ce que ça... Il y a tellement de mots pour définir des musiques, on ne sait plus comment on les reconnaît. Il faut être formé, il faut être initié à ça.
C'est vrai. Alors ça, c'est un peu le piège. Hein, c'est le piège de la formulation. Et pour se rassurer, l'homme aime bien mettre des mots sur les choses. Alors c'est piégeant parce que dans les musiques actuelles, ben, on met tout, quoi. Et puis les musiques actuelles, celles qui datent d'il y a 40 ans... ne sont plus celles d'aujourd'hui. Donc c'est toujours compliqué. Moi, je crois qu'il faut aller aux musiques par la rencontre de l'autre, par l'échange. Tiens, je te fais découvrir ce disque-là, qu'est-ce que tu me proposes ? Et puis après, on met des mots sur les choses. On s'aperçoit que souvent l'histoire croise ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas, d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on se fait une culture. Ça prend du temps, mais effectivement, il faut éveiller sa curiosité. Et puis voilà, il y a aussi des médiathèques, il y a des lieux de diffusion culturelle qui sont faits pour ça. Et bien sûr, aller au concert, la musique vivante, c'est quelque chose, voilà, qui permet d'avoir un accès souvent important pour ce style de musique, justement, de musique qui peut sembler élitiste, qui peut sembler rébarbative, répulsive, voire je pense au free jazz. Et pourtant, lorsque on va écouter un concert de free jazz, pour peu que les musiciens fassent le boulot, on est pris par quelque chose. On ne peut pas rester insensible à cette musique-là. Il faut y aller sans se poser trop de questions. Voilà, souvent avec des copains, et puis tout se passe bien, généralement.
Parce que ça paraît presque un pléonasme, le free jazz, puisque le jazz, à la base, c'est quelque chose d'assez libre et d'improviser. Donc,
c'est vrai, mais c'est aussi un langage avec des codes extrêmement précis. Mmh. Le jazz... c'est vraiment la première musique de fusion, hein, avec toute l'Afrique et les esclaves africains qui ont donc débarqué en Amérique, qui se sont servis des instruments occidentaux, clarinette, piano, et qui ont essayé, et les instruments avant, hein, qui ont essayé d'adapter les sons qu'ils avaient chez eux, avec les balafons, les koras, avec un système d'accords qui était vraiment différent, et donc ils ont essayé de retrouver ces sons-là en bouchant à moitié les trous, en tirant les cordes des guitares, en jouant des fois deux notes en même temps sur le piano, deux notes très proches. Et tout ça donne une musique de bricolage. Ils se sont servis aussi beaucoup de la musique occidentale, la musique d'Europe, la musique du XXe siècle. Donc c'est une vraie musique de bricolage, de partage, d'échange. Et ça donnait des styles qu'on peut d'ailleurs synthétiser en décennies. Première décennie, le ragtime, le New Orleans, et puis après le middle jazz, le temps des grands ensembles. Enfin, il y a des choses assez précises, tout en restant quand même assez flou dans les faits, quoi. Mais on peut aussi croiser de façon chronologique cet apprentissage. Voilà. Mais je crois que le mieux, c'est d'y aller par ce qui nous environne, c'est-à-dire une chanson de Jonas, une chanson de Nougaro peut nous amener très loin dans le passé. Donc il ne faut pas s'interdire une chanson de Gainsbourg aussi, voilà. Il ne faut pas s'interdire de s'intéresser à ça, quoi. Et c'est le même rapport avec la musique classique. Il y a toujours, il y a rien qui est spontané, qui vient comme ça surgir. Donc il y a toujours un enracinement profond et une modernité qui se met en place par le travail des uns et des autres sur cette matière première qu'est la musique. Tout ça, c'est assez magique, en fait. Hein, voilà.
On va faire une deuxième pause musicale, et c'est en plus l'occasion d'écouter encore un morceau. On va écouter Lili Rastaquette, c'est joli ça, et c'est issu aussi de l'album de Frank Marco, Monkey Dreams. C'est vous qui avez composé aussi ?
Alors non, ça c'est une composition du bassiste Lionel Douenens, c'est un reggae, mais un reggae justement qui va se transformer très vite en quelque chose de curieux, de vivant, on ne sait pas trop ce qui se passe à la fin, mais tout finit très bien, vous allez voir.
Lili Rastaquette, et nous sommes en compagnie de Alain Soler. Et on retrouve Alain Solaire dans notre studio de Fréquence Mistral et on vient d'écouter donc Lili Rastaquette. J'adore ce titre. Donc de l'album Franck Marco Monkey Dreams. Et bien sûr, Alain Solaire, vous jouez. Et c'est donc le bassiste qui a créé le.
Voilà, c'est une composition du bassiste Lionel Doenens. Voilà, qui a beaucoup travaillé le reggae, qui adore ça. Et en l'écoutant, je me faisais la réflexion que c'était un reggae plutôt musclé, quoi. Ouais. Proche du hard rock et du free jazz, puisqu'on lâche prise complètement à un moment donné, et puis on se récupère sur le thème, et on termine, quoi. Voilà. C'est intéressant, cette discussion qu'on a eue avec Odile, off, hein, voilà.
On va la répéter.
Peut-être, pourquoi pas. C'est sur le free jazz, disons que. Ouais. Tous les accès sont possibles et on peut partir de n'importe quoi pour finalement discuter ensemble entre musiciens. Tous les prétextes sont possibles. Voilà. Et il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc tu as fait une drôle de tête lorsque la musique s'est arrêtée d'une façon un peu spéciale. Et effectivement, c'est fait pour ça, pour capter l'attention d'une autre manière que cette routine où il y a un tempo régulier, où il y a une mélodie régulière. D'un coup, tiens, qu'est-ce qui se passe? Les choses changent. On est déstabilisé, mais c'est fait pour ça. Et puis... on est amené à ce moment-là à voyager autrement, quoi, sur ce qui se dit entre les musiciens, ce qui se raconte jusqu'à la fin, quoi. Et on s'aperçoit que tout se passe plutôt bien.
Voilà. Mais quand on dit musique improvisée, quand on fait un album, c'est plus improvisé. Ça a été improvisé un peu avant. On reproduit un peu, on prépare quand même cette musique improvisée.
Bien sûr. Alors là, il y a effectivement une culture. Hein. C'est un idiome. Le jazz et les composantes du jazz sont un langage, quelque chose qui est partageur, qui est fédérateur. Il y a des codes précis, une grammaire, une syntaxe précise de ce langage musical. Voilà, donc on improvise effectivement d'une certaine manière, mais c'est toujours référencé et rattaché à une vraie tradition musicale. Des immenses musiciens comme Charlie Parker, comme Louis Armstrong plus tôt, avaient déjà déposé quelques lignes, quelques phrasés qui leur appartenaient. Et donc le jazz, c'est une musique où chacun se pille les uns les autres de façon très, très claire. On n'avance pas masqué, mais c'est ce qui permet de se construire. Voilà. Et ce que j'aimerais dire, par exemple, là-dessus, c'est que une des composantes du jazz aussi, c'est de ne pas s'arrêter là. C'est une musique qui a su évoluer jusqu'aux années 80 et qui, là, a tendance quand même à stagner un peu, en ce sens que tous les centres de formation ont tendance à standardiser l'enseignement. Autrement dit, tout le monde va jouer de la même manière, va travailler les mêmes phrasés. Voilà. Et on oublie cette composante du jazz, qui est une composante qui n'est pas vraiment paramétrable. Hein. On peut paramétrer une note de musique, on peut paramétrer un rythme, on peut voir paramétrer dans une chronologie un style ou une esthétique, mais un état d'esprit, en disant, écoute, il faut que tu sois créatif, imaginatif, ça a été fait par un tel, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane. Ok, travaille ça, bien sûr, apprends de ces gens-là, de ces immenses musiciens, mais toi maintenant, tu dois aussi amener quelque chose. Et ça, on le dit peut-être un peu moins, quoi. Voilà.
Alain Solaire, donc, on ne sait plus comment vous appeler, parce que c'est musicien, c'est directeur artistique, c'est guitariste, pianiste, batteur. On saura que Alain Solaire, c'est tout ça.
Et je suis aussi.
Et puis professeur aussi, en fait.
Je pratique la chirurgie du cerveau aussi.
C'est vrai?
Non.
Avec les notes, avec la musique.
Je suis juste musicien, voilà. Et passionné par tout ça, quoi.
Voilà, quand on est musicien, on aime transmettre aussi à d'autres son goût de la musique en enseignant. C'est différent d'enseigner et de jouer dans un groupe où...
Alors pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, je ne conçois pas de jouer, de ne pas partager ça, de ne pas transmettre. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai reçu et forcément, je donne aussi, voilà. Mais il y a des musiciens qui détestent faire ça, qui préfèrent jouer et se consacrer uniquement à leur art, ce que je conçois aussi. Hein. C'est beaucoup d'énergie passée à donner des cours, à expliquer, à se creuser les méninges pour justement créer un état d'esprit qui favorise cette transmission dont je parlais, quoi. Voilà, pas simplement des notes sur une partition, mais bel et bien ce langage cette histoire, cette historicité de la musique improvisée au travers du jazz afro-américain. Et qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, ici, au Carrefour Bleu Endurance? Voilà, c'est une vraie question. Et avec les gens d'ici, comment on partage ça? Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est cette question-là qu'on s'est posée il y a 25 ans avec l'atelier de musique improvisée. On essaie encore d'être en adéquation avec ça. Et moi, maintenant, enseignant au conservatoire à rayonnement départemental sur Digne et sur Manosque, et travaillant sur les musiques actuelles amplifiées, j'essaie toujours de garder cet état d'esprit, c'est-à-dire hors cursus, hors concours, essayer vraiment de préserver un échange et une méthode rigoureuse sur l'apprentissage de la musique et les fondamentaux de la musique. Mélodie, accords, rythme, chansons, texte lorsqu'il y en a. Et puis voilà, quoi, mélanger les niveaux, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
On n'est pas obligé de passer par le cursus classique du solfège. On peut aussi, de plus en plus, les jeunes, même les moins jeunes qui se mettent à la musique, ont envie de choses simples, de voir avec ses yeux où est-ce qu'on place les doigts, avoir une mémoire visuelle et tactile, en fait. On peut aussi apprendre la musique comme ça.
Bien sûr. C'est
à l'oreille et...
La musique fait parler, met en avant d'abord les outils qui sont l'oreille. L'oreille et les doigts, il y a quelque chose de très intuitif et de très. Quelque chose qui est lié au sens avant l'analyse. Avant l'analyse et le langage. Alors, si on fait un peu l'histoire de la partition, on s'aperçoit que, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de magnétophone, il n'y avait pas de moyen d'enregistrer. La musique, donc, c'était le moyen le plus pratique pour noter ce qui venait d'être joué dans un concert. On dit que Mozart, par exemple, était capable de mémoriser près de trois quarts d'heure. Lorsqu'il allait écouter des chorales de Bach à quatre ou cinq voix, il rentrait et il notait ce qu'il avait entendu pendant trois quarts d'heure de façon imparfaite. Et l'histoire de la partition, c'est intéressant parce que, pareil, il y a aussi une évolution de la partition. On peut déplorer le fait que, au début 20e, les conservatoires se soient axés principalement sur le langage. Voilà. Un siècle avant, ce n'était pas le cas, par exemple. Donc effectivement, en tout cas, avec les musiques actuelles et les musiques actuelles amplifiées, on a la chance d'avoir des traces d'enregistrement, des traces directes des musiciens qui ont gravé sur disque, sur bande, leur musique. Du coup, ça fait appel directement à nos oreilles, donc... Les musiciens qui travaillent ces choses-là mettent un casque et relèvent, transcrivent et apprennent de cette façon-là le bluesman, le jazzman, machin, ou le chanteur qui fait sa chanson. Voilà, c'est un moyen direct de faire appel à une autre forme d'accès à cette connaissance-là, quoi.
On va revenir à l'atelier de musique improvisée, donc appelé l'AMI, c'est très sympathique, c'est très amical. C'était donc en 1989 et beaucoup de musiciens sont passés par chez vous, là-bas, à Château-Arnoux, dans cet atelier qui est situé près de la Poste, hein, c'est ça,
c'est
en
ça,
dessous
oui.
de la Poste hein, de Château-Arnoux. Il y a beaucoup de musiciens dans le département, et de plus en plus,
Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de musiciens, de grands musiciens même, qui se sont installés, implantés dans notre belle région. Alors voilà, c'est vrai que la région est magnifique. Il y a des vallées qui sont complètement différentes lorsqu'on on sillonne notre pays d'est en ouest, de Castellane jusqu'à Fort-Calquier par exemple, ou de Sisteron jusqu'à Manosque. Il y a vraiment une diversité de terroirs, quoi. Et moi, je suis venu m'installer là, par exemple, pour le ciel, quoi. Voilà. Pourtant, je ne venais pas très loin. Je suis originaire de la Seyne-sur-Mer, dans le Var. On pourrait croire que c'est à peu près la même région, mais pas du tout.
Et voilà. Le ciel est moins bleu dans le Var.
Le ciel est moins bleu, il est plus
oui.
blanc, je trouve. Ouais. Et donc, là, on a assisté, il y a une dizaine d'années, à une recrudescence d'excellents musiciens qui se sont implantés ici. Je pense à Benoît Paillard, je pense à... Christophe Leloil, je pense à Raphaël Imbert, à Capucine Olivier aussi, à Lionel Douénas. Ce sont des gens qui sont venus ici par amour de la région, quoi.
Et vous parlez d'un partenariat aussi avec le collège Camille Raymond. Ça, c'est aussi. Il est où ce collège?
Oh là là, ça, c'était il y a quelques années.
Il y a longtemps, oui. C'était entre 89 et 92.
Oui, c'est le collège de Château-Arnoux, en fait. Mm-hmm. Voilà. Où là, on avait un petit partenariat avec la classe de musique, en fait, avec le professeur de musique, Jacques Luetier, à l'époque. Et donc là, ben, je travaillais sur des boogie-woogie, sur des choses comme ça avec les élèves. Et il y avait un premier accès donc, à cette musique afro-américaine via le rock'n'roll pianistique. Voilà, c'était très très sympa à faire toute une année, quoi.
Et puis, on va parler de votre médaille d'or quand même. C'était dans ces années-là aussi, une médaille d'or à l'unanimité avec les félicitations du jury au Conservatoire national de région de Marseille.
Oui, je n'avais pas fait exprès. Hein. Non, j'y suis allé par hasard, en fait, parce qu'il...
C'était un tirage au sort, la médaille d'or?
Non, mais mon inscription au Conservatoire, alors, j'étais vraiment tout à fait... ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais rencontré le prof historique de la classe de jazz de Dean Manosque, Julien Armani. Et en travaillant avec lui, il m'avait incité, et moi et d'autres, à aller nous inscrire dans cette classe légendaire à Marseille. Légendaire parce que c'est la première classe qui a été créée en France par Guy Lognon. Guy Lognon qui était trompettiste qui accompagnait Sidney Bechet. La classe donc, a été créée en 1963, c'est la première classe de jazz. Moi j'y suis rentré peut-être en 89, quelque chose comme ça. En même temps que je fondais l'AMI, j'ai eu mon prix en 91, je suis allé très vite. Et même si Guy était quelqu'un de fantastique, moi il m'a appris pas mal de choses. Ce que j'ai trouvé dans cette classe et dans cette institution, c'est beaucoup de... un rapport castique un peu entre les gens, un rapport castique, hiérarchique, antifraternel entre les musiciens. Et c'est tout ça que j'ai fui et j'ai pas voulu du tout reproduire ces schémas-là au niveau de ma structure, l'atelier de musique improvisée. Donc j'ai eu mon prix, certes, mais pendant 2 ans, j'ai pas fait de musique. J'ai optimisé ma technique et mon rapport au jazz pour avoir ce prix-là. Donc j'ai appris beaucoup, mais par défaut, quoi. Voilà, sur la classe de jazz et mon prix, quoi.
Alors, vous parliez aussi de l'école de musique de Barcelonnette, de jazz impro d'Embrun. et puis l'association Jazz à Aubagne, le conservatoire de musique à rayonnement départemental, donc dont vous êtes maintenant aussi partenaire. Enfin, vous enseignez aussi au conservatoire.
Oui, tout à fait. J'ai un contrat avec combien d'heures? 16h30. Presque un temps plein pour enseigner les musiques actuelles amplifiées, donc tout ce qui concerne tout ce qui n'est pas le jazz, donc le blues et ce qui en découle, donc le rock, la pop musique. Pour moi c'est vraiment très frais et rafraîchissant de faire ça. Je suis confronté et baigné dans des environnements où les élèves sont très jeunes, et c'est vraiment super, quoi, de pouvoir partager avec eux ce qu'ils souhaitent faire et moi ce que je peux leur apporter. Et voilà, c'est beaucoup moins astreignant que d'enseigner le jazz. D'ailleurs, je disais ça à mon confrère Christophe Leloil tout à l'heure, que j'ai vu qu'il lui enseigne le jazz. Et pour l'enseigner dans d'autres endroits, c'est vraiment un métier difficile que de transmettre cette musique du jazz. Voilà. Donc c'est vrai que là, en même temps, depuis 5 ans, on récolte un peu, parce que je ne suis pas seul dans cette histoire-là. Ce qu'on a semé avec l'atelier de musique improvisée, on est sollicité pour enseigner, pour faire des stages, pour participer à des écoles associatives. Voilà, c'est le cas à Barcelonnette, c'est le cas sur Embrun, sur Aubagne. Voilà, donc on est pas mal occupé sur les activités pédagogiques, tout autant que sur les activités artistiques du label qu'on a monté aussi, le label Durance qu'on a monté en 2005, là, qui est un petit peu la vitrine des projets artistiques portés par l'atelier de musique improvisée. Par les musiciens qui gravitent autour.
Label Durance, est-ce que ça a à voir avec ECM?
Alors, ECS, peut-être ECS.
ECS,
c'est le label de notre studio. Mm-hmm. Evolutif Concept Studio, c'est un nom un peu étrange pour. Il fallait trouver une forme de logo, quoi. Et le label Durance, c'est plutôt la vitrine de toutes nos réalisations discographiques. Et on a la chance d'être distribué par un beau distributeur dans toute l'Europe qui s'appelle Orchestra International, qui a un catalogue immense avec des gens comme Robert Wyatt. Enfin voilà, on a beaucoup de chance d'être distribué par Orchestra. Et cela depuis 2010, voilà, grâce à un CD qu'on a fait avec André Jaume, qui est un grand musicien précurseur du jazz, du free jazz en France. Un disque sur les hymnes qui s'appelle Hymnes et qui a obtenu plusieurs récompenses. Et donc là, on a eu la chance d'avoir ce distributeur qui s'est intéressé à ce qu'on pouvait faire dans les Alpes de Haute-Provence. Donc depuis, toutes nos réalisations discographiques sont distribuées dans toute l'Europe. On a des retours de journalistes italiens, suisses, belges, en Allemagne aussi. Il y a pas mal d'échos de nos productions. Donc c'est toujours très vivifiant de voir que la musique circule et qu'il y a des retours. Ça fait sens par rapport à des projets des fois un peu compliqués qu'on peut porter, hein, notamment sur l'harmonium ou sur, voilà, sur des styles de musique un peu difficiles d'accès. Voilà.
Comment on obtient un label ?
Alors le label, on le crée lorsqu'on se fait virer d'un autre label.
Ah bon ?
Alors, avant nous étions... Moi j'étais sur un label qui s'appelait le CELP, C-E-L-L-P, un label varois, fondé par André Jaume et Robert Bonacorsi. Robert Bonacorsi qui est l'éminent directeur du festival du Fort Napoléon à la Seyne-sur-Mer. Ils avaient fondé ce label et à l'époque ils étaient distribués par Harmonia Mundi. Donc j'ai eu la chance de faire quelques disques sur ce label, notamment avec Joe Lovano, avec André, avec Larry Schneider. Et puis à un moment donné, il y a eu des gens qui sont rentrés chez Harmonia Mundi et qui ont décidé que les petits labels comme les nôtres devaient dégager. Donc ça, c'était il y a plus de 10 ans, quoi. Et là, effectivement, on avait des productions en train d'être faites, d'être portées, nourries. Donc ben, qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve le bec dans l'eau. À ce moment-là, on décide de créer notre label et de mettre en place une vitrine, quitte à ne pas être distribué comme nous l'étions à l'époque. Et puis la chance a fait, et le travail a fait aussi, que ben voilà, on est resté sans distributeur pendant 4 ans, puisque le label existe depuis 2005, 2004-2005, donc on a été contacté par Orchestra en fin 2009. Voilà, et donc là, ça fait 5-6 ans que tout ce qu'on fait traverse l'Europe et circule. Voilà, ça, pour moi, c'est très important que la musique soit diffusée, parce que ça, vraiment, ça met du sens sur ce qu'on peut faire ici. Voilà. Si on fait des disques, c'est bien pour qu'ils soient écoutés et que des gens disent qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. D'ailleurs, on n'a pas que des bonnes critiques. On a quand même pas mal de très bons échos, même c'est majoritaire. On a beaucoup de disques qui sont récompensés. On a fait l'objet de très belles émissions sur France Musique, notamment avec Alex Dutille dans son émission Open Jazz. Voilà, très souvent, il fait l'écho de nos productions. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a vraiment un éclairage national de la presse et des médias, quoi. De la presse spécialisée papier, Jazz Magazine, Jazzman, Jazz News, et de la presse média avec des grands médias comme Radio France, quoi.
Alors, par rapport à la clientèle, si on peut appeler ça comme ça, les musiciens qui veulent enregistrer dans votre studio à l'AMI, donc il y a certaines conditions à remplir. Il faut que ce soit quand même dans votre style musical. Pas n'importe qui peut venir en payant pour enregistrer son CD.
Oui, alors évidemment, on est ouvert, hein, vraiment sur toutes les propositions. Mais en fait, le studio, on fera le distinguo avec ce que peut défendre le label. Mm-hmm. Mais le studio, lui, est surtout versé dans la prise de son acoustique. Hein. Donc tout ce qui est, lié à cet univers de la musique acoustique, le jazz, le blues ou électrique dans le sens du rock, de la pop musique ou de la chanson française, tout ça on fait. On a vraiment un équipement formidable, très, très pointu, et surtout 4 salles interconnectées qui nous permettent vraiment de travailler sur de la prise de son live, mais avec une isolation phonique parfaite. Donc ça, c'est vraiment un outil superbe. Donc ça, c'est le studio. Effectivement, n'importe qui peut taper à la porte et enregistrer. C'est fait pour, hein, d'ailleurs. Et notre studio doit travailler et travaille de plus en plus. Voilà. En revanche, sur le label Durance, je reçois maintenant qu'on est distribué entre 3 et 5 disques par mois de gens qui veulent être portés par le label pour être effectivement diffusés comme nous le sommes. Alors là, il y a un cahier des charges assez précis qui se décline en 3 points. Le premier point étant une implantation dans notre Grand Sud. Déjà, voilà, parce qu'il y a une espèce d'identité géographique et de territoire qui nous tient à cœur. Le deuxième point, c'est qu'il y ait un lien précis avec le jazz et les musiques improvisées. Voilà, ça c'était le projet initial aussi de notre label. Et le troisième point, qui est plus flou, mais qui fait sens pour nous qui travaillons vraiment sur le projet artistique, c'est qu'il y ait un contenu artistique qui soit fort. Et c'est-à-dire qu'une composition, malheureusement, ne suffit plus pour interpeller sur ce style de musique-là. Il faut qu'il y ait une thématique forte, lisible, et qui puisse être accessible au plus grand nombre de personnes, même si la musique reste ce qu'elle est dans son entièreté, quoi, dans sa façon d'être sans concession.
Bien, merci Alain Soler. On n'a pas fini, hein, mais j'ai envie qu'on ait le temps de passer différents albums, différents extraits, puisque on a écouté tout à l'heure donc de Franck Marco. J'ai envie qu'on aille sur Harmonium Trio.
Ah, mais voilà, c'est ça. Hein,
alors, on avait parlé de The Fool on the Hill. Est-ce que on peut choisir celle-ci?
Bien sûr, c'est une chanson des Beatles. C'est parfait pour illustrer ce que le jazz peut faire avec.
Allez, on l'écoute. Eh bien, nous revoilà sur Fréquence Mistral, toujours en compagnie d'Alain Solaire, musicien et directeur artistique de l'AMI. Et puis aussi, on n'y est pas encore venu vraiment, mais avec le Conservatoire à rayonnement départemental, plus qu'une participation, l'enseignement. Et puis, donc là, on vient d'écouter Harmonium Trio. Donc, c'est un album qui date de quand, Alain Solaire ?
C'est l'an dernier, en fait.
Il est tout frais, celui-là.
Ouais, tout à fait.
Et enregistré évidemment à l'AMI.
Au studio ECS, voilà.
ECS.
Cet album-là est vraiment significatif, justement, du label Durance, c'est-à-dire des musiciens implantés sur le territoire. C'est mon cas, c'est le cas de Raphaël Imbert. André Jaume vit en Corse. Et donc il y a un lien fort avec les musiques improvisées, avec le jazz. Ici, on a choisi un prétexte des Beatles, The Fool on the Hill. Et ensuite, un propos artistique est là qui tourne autour de l'harmonium, qui est un instrument incroyable. C'est le troisième que je restaure. Je récupère ça dans des églises, dans des petites chapelles, dans des états.
Encore une corde à votre arc, à votre guitare.
Oui, c'est des instruments incroyables. L'orgue du pauvre, l'orgue expressif. Et ben voilà, c'est
retaper
toujours...
Retaper un orgue, c'est quand même...
Un harmonium.
Un harmonium.
Oui, c'est comme des harmonicas, en fait, avec un système... de registres et de...
Ça ressemble à ça,
c'est
ce qu'il y a sur la pochette, mais c'est quand même... il faut savoir. Vous avez appris ?
Alors, figurez-vous qu'on a trouvé... Enfin, j'ai trouvé, parce que j'ai fouiné, dans la bibliothèque virtuelle de Berlin, le livre qui traite de l'harmonium à la fois dans sa... dans sa manière d'être, c'est-à-dire de comment c'est fait, quoi, voilà. Mmh. Et ensuite, la méthode pour en jouer. C'est un prêtre anglican, je crois anglais, qui avait fait cette méthode-là, quoi. Alors, c'est un instrument assez récent, qui date de fin 19e, quoi, hein, voilà. Et qui, comme ça coûtait assez... Enfin, c'était pas très cher comme instrument, beaucoup de petites églises s'en sont dotées. Et là, avec l'ère de l'électronique, on a préféré les remplacer par des pianos numériques. Mais donc, il y en a encore quelques-uns, et moi, je récupère ça. Et puis, on est arrivé à faire ce disque assez incroyable avec Raphaël Imbert, André Jaume, quoi. Voilà. On joue un petit peu des standards de jazz, mais également des compositions et de la pop musique. Voilà, l'idée, c'est de vraiment tourner autour de l'harmonium et de voir comment on peut faire vivre un trio, voilà, avec des vents. Puisque là, il s'agit bien d'anches. Hein. Le sous-titre, c'est Reed Organ, c'est le nom anglais de l'harmonium. Reed Organ and Reeds. Reeds, c'est vraiment le mot anglais pour les souffleurs, pour les gens qui jouent des hanches, hein, des instruments à hanches. Et là, c'est le cas donc, de Raphaël Imbert et d'André Jaume.
On va mettre encore un tout petit peu de First Song, j'y arrive, parce qu'il dure 8 minutes 23, va être un peu long. On a quand même encore des choses à apprendre. C'est juste pour avoir un petit aperçu. Alors, un petit peu d'histoire sur ce morceau, composé donc par...
Alors, c'est First Song. First Song, c'est une composition légendaire de l'immense Charlie Haden. Charlie Haden, qui était un contrebassiste de jazz, qui a marqué l'histoire du jazz de son empreinte, en créant des ensembles comme le Libération Orchestra. Et André Jaume et Charlie Haden ont fait un disque ensemble il y a quelques décennies. Et Charlie Haden nous a quittés l'an dernier. Voilà, il y a beaucoup de musiciens de jazz qui trépassent. Et par exemple, hier, on a eu l'immense chagrin d'apprendre la disparition d'Eddie Lewis, le regretté organiste de Claude Nougaro, entre autres. Voilà, les gens vieillissent, effectivement.
Et ils nous quittent.
Ils nous quittent.
Égoïstement.
Voilà. Mais la musique reste.
Non, la musique reste, oui.
La musique reste, voilà.
Alain Soler, je vous ai posé la question hors antenne, mais je la repose évidemment. Vous êtes père de famille, de deux enfants, dont un qu'on connaît bien aussi à Digne et dans le département, Anthony. Juste vous demander si, bien sûr, en tant que compositeur, vous avez certainement été inspiré à la naissance de votre premier enfant.
Bien sûr. Alors, juste un petit aparté, c'est que je suis père et grand-père aussi.
Grand-père aussi.
Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite fille Julia.
Oh, donc, super.
Je lui fais 1000 bisous. Elle vient d'avoir 3 ans.
Et bien voilà, une émission en hommage à... Comment elle s'appelle ?
Julia.
Julia.
La fille de ma fille, voilà. Née le 1er juillet. Et donc, effectivement, la naissance de mes enfants, j'aurais même écrit un morceau à chacun que je n'ai pas enregistré, mais que je leur jouais comme une berceuse. Ils sont allés à la musique avec ça, quoi. Et Anthony, effectivement, a vraiment lui développé son envie d'aller vers la batterie. C'est devenu un excellent batteur, avec lequel, d'ailleurs, on a enregistré le dernier disque d'André Jaume en quartet, avec un excellent contrebassiste que m'a présenté Raphaël Imbert, qui s'appelle Pierre Fénichel. Anthony joue de la batterie, et là, on figure dans ce dernier disque, tous les deux, le père et le fils, et André Jaume faisant un peu office de grand-père.
Alors, on l'écoute, merci. Thank you. jazz Begin.
Begin, ouais, c'est Begin. Vraiment un hommage à, voilà, au style, hein, mm-hmm. Begin.
Donc père et fils, Alain Soler et Anthony Soler, entre autres, jouent, et puis André Jaume.
Voilà, c'est vraiment un projet particulier, comme tous les projets du label Durance. Un hommage à André, un petit peu, qui a été comme un grand frère, voire un père spirituel, en tout cas en ce qui me concerne, et un grand-père pour Anthony, puisque Anthony, dès sa plus tendre enfance, il écoutait André, il écoutait ses anecdotes lorsqu'il venait dormir à la maison, André, pour des projets ou d'autres enregistrements. Et du coup, c'est un vrai projet transgénérationnel qui lui fait écho, ce projet-là, Something Close to Something, c'est le titre de l'album, il fait écho à un disque légendaire d'André qui s'appelle Something, enregistré en 90 en Amérique avec d'immenses musiciens. Et en fait, là, on a choisi les thèmes joués en 90 sur ce premier disque et on les a légèrement détournés pour en faire quelque chose de proche de quelque chose. Voilà. Something Close to Something. Et c'est un peu aussi une idée de réunir un grand-père, des pères et un enfant sur un album.
Alain Soler, vous parliez il y a quelques secondes de l'entente entre musiciens, c'est primordial pour bien jouer ensemble. Et des fois, ce n'est pas toujours évident. Il y a quelques anecdotes croustillantes ou pas?
Alors, il y a carrément des points de vue différents. Pour moi, la musique se nourrit d'amour, se nourrit d'amitié, de fraternité. Je préfère jouer avec des musiciens qui jouent moins bien, mais avec qui j'ai des affinités fraternelle, quoi, voilà. Mais effectivement, il y a d'autres musiciens qui se désincarnent de tout ça et qui m'ont dit, moi, clairement, hein, qu'ils préféraient jouer avec d'excellents musiciens, même s'il est détesté dans la vie, quoi. Pour moi, c'est inconcevable, mais bon, visiblement, c'est possible. Ma foi, je ne sais pas trop.
Alors, qu'est-ce qu'on a oublié ? Il y a encore plein de choses à dire. On n'aura pas assez de temps, d'ailleurs, pour jusqu'à la fin de l'émission. Il nous reste un bon quart d'heure. Est-ce qu'on revient à vos emplois du temps actuels ? Déjà, plus de 25 CD enregistrés. Quelles sont vos plus grandes joies dans la musique actuellement, par exemple ?
Alors, actuellement, c'est dissocié. Il y a deux directions, voilà, qui me comblent. Il y a les petites sessions d'enregistrement que j'ai faites avec mes élèves du conservatoire rayonnement départemental. On a enregistré une vingtaine de chansons dans les studios de l'atelier de musique improvisée. Voilà, des reprises, là, hein, des reprises anglaises, des Beatles, des Who, des vieux blues, voilà, on s'est amusé à faire ça et le résultat est vraiment frais. Et l'expérience partagée pendant ces 4 jours de session, ça m'a plu, quoi. Voilà, on était, c'est-à-dire que le rapport de prof-élève qui n'existe déjà pas beaucoup avec moi dans le cadre de l'enseignement, là, il a été gommé complètement par ce partage et j'ai eu beaucoup de retours. Voilà, ça me nourrit en termes d'amour, voilà, hein, on va dire. Et ensuite, il y a deux projets qu'on est en train de finaliser. C'est le projet de Pierre Fénichel, donc à la contrebasse. Un projet qu'on a enregistré en septembre dernier avec Cédric Beck à la batterie, un immense batteur. Pierre Fénichel à la contrebasse et moi-même à la guitare sur l'œuvre de Dave Brubeck. Dave Brubeck, vous connaissez certainement Take Five.
À
5 ans. Tout à fait. Et donc, Dave Brubeck nous a quittés il y a 3 ans, là. Voilà, 2 ou 3 ans. Et donc Pierre a été passionné de ces musiques-là, donc on a enregistré tout un projet particulier sur des morceaux avec des métriques justement improbables à 11 temps, 5 temps, 7 temps, enfin tout sauf du 4. Et voilà, ce projet sort bientôt. Il y a aussi un beau trio avec Raphaël Imbert et Cédric Beck. On a enregistré en public à la cave à Lulu à Fort-Calquier et l'atelier de musique improvisée également, 2 concerts live. Et on est en train de mixer, de finaliser cet album-là qui est très sauvage, très live, quoi, avec les auditeurs devant. Enfin, voilà, ça crée vraiment une tension et une énergie particulière. Donc il y a ces deux projets-là qui me nourrissent bien aussi. Je suis très satisfait de ces deux choses qui vont sortir bientôt, quoi.
Alors je sais, et je m'en excuse d'avance, je n'ai pas pu assister à ce fabuleux concert. Enfin, j'imagine fabuleux, et je sais que ça s'est bien passé. Il y a eu quand même, avec ce petit groupe justement de six élèves musiciens que vous avez formés, c'est ça, hein, au Centre culturel René Char, c'était le 27 juin dernier.
C'est ça, oui, tout à fait.
Et ça devait être une sacrée joie pour eux aussi.
C'était chouette parce que du coup, j'ai réuni donc une équipe plutôt manosquine, hein, avec des élèves de Manosque, avec un petit batteur, Martin, qui joue super, un petit guitariste, là, Kevin, qui joue extrêmement bien aussi. Et il y avait deux chanteuses, une dinoise et une manosquine qui ne se connaissaient pas, quoi.
On peut donner leur prénom.
Alors hein. Emma oui. Villaret et puis oui. Lucie Toureau. Elles se sont rencontrées et, carrément sur scène, c'était terrible parce qu'elles ont mis le feu, quoi. On a joué une heure et demie, voilà, et les gens, on a eu des retours comme quoi c'était un vrai concert, voilà, et c'était régalé.
Donc justement, quand il y a une belle réussite comme ça, pour ceux qui auraient pu manquer tragiquement ce concert, est-ce qu'il y aura moyen de le reprogrammer quelque part ?
Alors là, on a notre rendez-vous annuel sur le Centre culturel René Char, le concert des musiques actuelles amplifiées du conservatoire départemental, toujours fin juin. Là, je pense que ça sera aux alentours du 25 juin, l'an prochain. Mais on va faire quelques petits concerts à Manosque, au Café Provisoire, je pense. On va essayer de trouver quelques lieux pour faire certainement à Château Arnoux aussi, à la musique improvisée.
Alors, il faudra absolument nous envoyer les dates un peu à l'avance et que cette fois, il n'y a aucune raison de manquer ce moment. Promis,
c'est,
hein.
Ah, c'est promis, je vois. Tout à fait. Et c'était vraiment une belle expérience de pouvoir, voilà, de pouvoir faire ce travail-là avec les élèves du conservatoire, quoi.
Et puis on va juste reparler de. Ils ont la joie d'enregistrer.
Oui, oui, tout à fait. Ils ont fait donc cet enregistrement qui va.
Ah, ça s'est fait en direct au centre culturel.
Non. Ça s'est fait en avril dans le studio d'Atelier de musique improvisée.
D'accord.
J'ai quelques traces, bien sûr, audio, parce que Éric Berthollet, le régisseur du Centre culturel René Char a fait quand même une trace audio du concert. Mais en tout cas, en septembre, va être diffusé un petit disque sous les auspices du conservatoire qui sera diffusé à l'échelle départementale, je pense, avec la classe de jazz, la classe de musique actuelle amplifiée, enfin ma classe, quoi. Et donc les jeunes musiciens qui ont fait ce concert et qui ont fait cette année avec moi, quoi. Alors je tiens à dire un truc important à destination de nos élus. Il faut que nos jeunes puissent rester après le bac dans notre département parce que la dynamique se perd et c'est vraiment dommage. Là, il y a par exemple quelques jeunes élèves qui choisissent d'aller en fac à Aix parce que c'est pas trop loin du conservatoire de Manosque. Donc il faut vraiment arriver à créer voilà, des universités, des études plus longues pour que nos jeunes puissent rester un peu plus et qu'on les garde ici.
Bien, eh bien, j'espère que ce message sera entendu. Eh bien, il nous reste encore 12 minutes, c'est formidable.
On va pouvoir dire plein de choses.
Alors, on va pouvoir dire plein de choses. Vos plus beaux souvenirs sur ces plus de 35 ans de musique, 40 ans de musique dans une vie, c'est énorme, surtout que vous êtes encore très jeune. Oui, quand même, né en 1964, c'est encore jeune. est-ce que vos plus beaux souvenirs ou vos plus belles rencontres musicales ?
Alors effectivement, il y en a vraiment beaucoup. C'est difficile d'en choisir une. De façon très sentimentale, je choisirais ma rencontre avec Toots Thielemans, ce vieux grand homme de l'harmonica, hein, dans le jazz, qui a su vraiment me transmettre tout l'amour qu'il avait de cette musique-là. Voilà. Pendant 4 jours de résidence à Château Arnoux. En quelques mots et voilà, avec quelques anecdotes sur Bill Evans, sur Jaco Pastorius, sur ces grands musiciens là sur des morceaux comme Sophisticated Lady de Duke Ellington, sur les fondamentaux de la musique aussi, en me disant qu'est-ce que c'est beau de jouer une belle 13e, c'est une certaine note dans une gamme, voilà. Et bien il a su tout me donner, quoi, voilà, avec ce compagnonnage qu'il a fait avec moi en jouant de la guitare et de l'harmonica. On a fait des duos ensemble pendant 25 minutes sur scène. Je ne peux pas oublier ça, c'est vraiment ça qui m'a donné cette espèce de détermination et surtout cette certitude de savoir ce que je ne voulais pas, c'est-à-dire des cursus, des cycles, des concours, des choses qui cassent la musique par la compétition, par une espèce d'émulation artificielle. Alors que voilà, le jazz, c'est une musique qui se nourrit d'amour, essentiellement, même si effectivement il y a une part des fois sombre et historique. Hein, il y a des courants du jazz qui se sont montés contre ben voilà, les blancs, contre les noirs, etc. On ne peut pas le nier. En tout cas, moi, je choisis de croire que c'est l'amour qui nourrit tout ça, quoi.
Alors, justement, par rapport aux grands musiciens, aux grands noms, vous avez dû rencontrer des gens avec un fort ego et puis d'autres qui ont su rester simples malgré leur talent.
Oui, c'est vrai. C'est voilà, il y a des égos forts partout. Il y a voilà, des gens modestes partout aussi. Et il y a des gens stressés partout aussi. Donc en musique, finalement, moi, je choisis de rencontrer peut-être moins de gens, mais voilà, de faire plutôt une famille sur le long terme. Et j'ouvre les portes du label, j'ouvre les portes de l'atelier de musique improvisée. Mais voilà, je n'essaie pas, moi, de jouer à tout prix, de rencontrer à tout prix. Je suis bien dans ce que je fais. Je considère aussi que beaucoup de gens font beaucoup de choses dans l'urgence, toujours beaucoup, fuient d'un projet à un autre projet, voilà, parce que finalement, on n'a pas le temps de réfléchir. Voilà. Moi, je préfère faire peu de choses et puis le faire ici et le faire avec des gens que j'aime bien.
Alors, pour revenir à l'ego, je sais que vous êtes super modeste, Alain Solaire. En 92, premier prix du Conservatoire de Région de Marseille, pour la classe d'ensemble jazz dirigée par Guy Lognon, donc on en a parlé c'est tout ça, à l'heure. Oui. Diplôme obtenu à l'unanimité avec les félicitations du jury. En 2002, vous avez passé le diplôme d'accès aux études universitaires et puis un diplôme d'état de professeur de jazz en 2014. C'est tout frais.
Oui, c'est tout frais, ça. C'était, pour être légitime dans le cadre institutionnel du conservatoire. Les deux directeurs, Éric Doucet et Benoît Paillard, qui ont vraiment impulsé, je dois le dire, cette modernité, cette vision moderne de l'intégration des musiques actuelles dans le cadre du conservatoire des Alpes-de-Haute-Provence. C'est vraiment à Éric Doucet et à Benoît Paillard qu'on le doit. Donc ils m'ont dit, écoute, il faudrait que tu aies un DE pour pouvoir être légitime. Donc j'ai fait ça par validation d'acquis d'expérience. Sur dossier et devant un jury au CFEDEM, au Centre de Formation Musicale Supérieure, à l'ADEX. Et donc, suite à un entretien qui a duré trois quarts d'heure, une heure, ils m'ont donné ce DE de jazz. Quoi, voilà.
Bravo. Ouais,
merci.
Quand on est musicien, comme vous l'êtes, est-ce qu'on peut passer une journée sans jouer?
Oui.
Oui, c'est possible.
Oui, je dirais même, c'est fortement conseillé pour... justement casser les routines robotiques liées aux instruments et les réflexes. Oui. Moi, j'adore jardiner. J'ai planté mes tomates dans mes jardinières, là, en plein soleil.
Ah, c'est pas incompatible, le jardinage.
Pousser. Ah non, c'est même... C'est pour bien. Moi, ça me fait beaucoup de bien. J'adore faire ça, quoi. Donc là, je suis dans ma période tomate, herbier.
Quelle variété de tomates, alors?
Il y a de tout. Cœur de bœuf, pendelote, des tomates cerises. Voilà, on a planté quelques poivrons. Voilà, j'aime beaucoup les herbes, donc on a de la sauge, de la verveine, de la menthe, des tas de variétés de basilic et de menthe. Voilà.
Donc vous trouvez quand même le temps de jardiner en plus de la musique, de la famille.
C'est ça, je dors très peu. Hein,
voilà, c'est ça.
5-6 heures au maximum.
Il y a un moment, il faut faire un choix, voilà, où on vit tout ce qu'on a besoin de vivre. Ou...
voilà, j'essaie de cultiver mon jardin, quoi. Et d'être dans l'esprit de ce que disait Pierre Gassendi, célèbre philosophe dinois, il faut cultiver la force d'imagination qui est en nous. Voilà, c'est ce que répétait un de mes amis décédés maintenant, qui s'appelle Robert Niel, et qui disait souvent ça en empruntant les mots de Pierre Gassendi. Il faut savoir cultiver la force d'imagination qui est en nous. C'est une belle phrase pour ce curé philosophe éclairé.
Est-ce qu'on peut vous demander si il y a un instrument qui vous est plus facile ou plus qui quand vous avez envie de jouer ou d'improviser, est-ce que c'est sur la guitare ou sur le piano ou...
Alors ça dépend des périodes. Actuellement, c'est plutôt la guitare, quoi. Mm-hmm. Il y a quelques années, c'était plutôt la batterie, puis ça a été le piano. Donc il faut vraiment... c'est difficile avec l'âge aussi de pouvoir basculer d'un instrument à un autre et de s'incarner dans l'instrument. C'est vraiment compliqué, quand on joue de plusieurs instruments, de pouvoir vraiment y être tout de suite, quoi. Donc ça demande du temps, quoi. Et c'est vrai que là, c'est vraiment difficile pour de basculer. Là, en ce moment, c'est la guitare, quoi.
Alors, les métiers de la musique, c'est quand même difficile. Est-ce que vous n'avez aucun regret de ce que vous avez fait de votre parcours ou de CD enregistrés que maintenant vous trouvez minables? Est-ce que ça arrive, ça, d'avoir une rétrospective?
Oui. Des fois, il y a des trucs que j'assume pas trop, ouais, c'est sûr. Mais ça fait partie des parcours. Le CD, c'est une trace. Mm-hmm. Je me rappelle le premier que j'avais sorti de CD en 94, celui qui a été diffusé. La première chronique que je me suis pris en pleine tête, ça a été une chronique dévastatrice. Pourquoi fait-il venir Joe Lovano? Pour en tirer profit? Voilà. Bon, il n'y avait pas un mot sur la musique, mais enfin, il y avait un truc très très négatif. Quand on avait 26 ans, ça fait mal, quoi. On dit on va tout arrêter. Et heureusement, un mois après, sorti une chronique sur le même disque, qui en a fait un disque des mois dans Jazz Magazine. Donc voilà, il faut arriver à faire avec. Il y a des trucs que moi j'assume pas, hein, que j'aime pas particulièrement, mais bon, ça a été dans l'air du temps et ça a été fait avec sincérité, donc tout va bien, voilà.
Donc on rappelle bien sûr que vous êtes le père d'Anthony Soler, batteur. Il s'est naturellement dirigé vers la musique comme son père.
Oui, dès son plus jeune âge, il était attiré effectivement par le piano. Sa sœur aussi, Chloé, a travaillé, aime bien sûr la musique, mais son tempérament était plutôt sur autre chose, notamment sur le dessin. Donc il y a vraiment des natures sur l'inné et sur l'acquis. Il y a quand même une petite part, si infime soit-elle, qui détermine le caractère et l'inclination des enfants. Allez, bon, Anthony, c'était la musique. J'ai jamais dû le pousser ni sur les études, ni sur la musique. Il y est allé tout seul et puis il a été très baigné là-dedans, quoi.
Vous l'avez jamais découragé en lui disant ça va être dur, passe ton bac d'abord.
Non, je tenais à ce qu'il, sache jouer bien la batterie avant le bac, parce que je savais qu'après il aurait moins le temps. Et donc il s'est fait un très bon niveau en batterie avant de passer son bac et avant de faire ses études d'ingénieur du son à Cannes, quoi.
Et il accompagne régulièrement donc Bastien Lanza, qu'on connaît bien ici,
c'est
un Dinois. Mmh. Il est sur Paris maintenant, Anthony ?
Voilà, il est basé sur Paris, à Boulogne. Et il travaille avec plusieurs groupes. Et il vit de cet art-là, quoi. Mmh. Tout en faisant de temps à autre quelques mixages pour le label Durance, quelques prises de son. Voilà, parce qu'il aime aussi faire ça sur les musiques que l'on fait, quoi, ici.
Alors on a pu vous entendre tous les deux tout à l'heure sur ce CD que vous appelez comment ?
Something Close to Something.
D'accord, vous avez mangé volontairement sur le disque les lettres.
Les voyelles, ouais.
C'est plaisant de jouer avec son fils ?
Ah oui, on a toujours, dès qu'il avait 12 ans, on a fait des concerts ensemble sur des répertoires pop, hein, les Beatles, les chansons de Michel Ivogno aussi, voilà. Et alors je me tournais la tête, c'était toujours bizarre de ne pas le voir à hauteur d'adulte. Il fallait que je baisse la tête pour voir le petit bonhomme derrière la batterie. Et oui, c'est toujours très fort de faire de la musique avec son fils. Et maintenant encore, là on doit partir en Corse pour jouer justement dans un festival cet album-là. Et voilà, on va vivre une belle expérience tous les deux, avec André aussi, en août.
Alain Soler, merci beaucoup. C'est déjà l'heure de se quitter.
Merci beaucoup, Odile.
Se quitte avec le dernier de celui-ci.
Air Red, oui, qui est une composition de Graham Moncure 3.
À très bientôt. Merci.
Merci beaucoup. Merci à Fréquence Mistral de m'avoir accueilli. Merci à toi, Odile.
Ça sera avec plaisir pour une deuxième aventure.
Au revoir. Avec grand plaisir.